Merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Il y avait un petit peu de concurrence à la télé ce soir, donc on était un peu inquiet de savoir si on allait avoir autant de monde, mais on est ravis que vous soyez vraiment si nombreux. Alors je vais vous rappeler simplement peut-être la genèse de ces deux universités populaires. Au départ, on avait envie de proposer un café citoyen autour de la question du Moyen-Orient, des événements qui s'y passent, ça nous paraissait important. Et puis, sans que forcément il faille réduire ce qui se passe au Moyen-Orient avec des questions religieuses, il nous a semblé intéressant dans un premier temps d'avoir une réflexion par un expert de ces questions sur l'islam, une présentation générale de l'islam, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas, sachant que dans la période un peu troublée que l'on traverse actuellement, on peut avoir des représentations parfois... dur contre cette civilisation. Et donc c'était aussi l'occasion, au cours de cette première université populaire, de présenter... voilà, donc on s'est mis en quête d'un intervenant. Donc il va vous faire une présentation assez générale, m'a-t-il dit, de l'islam, de son histoire, de ses concepts principaux, de sa philosophie également. Voilà.
Merci beaucoup. Et... très chaleureusement et très sincèrement, merci à l'association Café Citoyen, merci à la ville de La Chapelle, merci à vous tous et toutes qui êtes présents ici ce soir. Et surtout que j'ai bien compris, il y avait de la concurrence. Bon, merci encore. Alors en me présentant, on a dit expert. Je ne suis pas du tout expert. Je n'ai pas de formation théologienne ni d'islamologue, je suis de formation philosophique. Ma légitimité à parler de l'islam vient de ma préoccupation anthropologique sur les questions du religieux, le religieux et la laïcité, le fait religieux et la laïcité. Elle vient peut-être aussi d'un vécu très important, qui est que j'ai grandi dans ce que Abdallah Hammoudi, un anthropologue marocain, dit de l'islam, c'est-à-dire, il dit « l'islam est ma maison ». C'est-à-dire que j'ai grandi dans cette demeure. Je suis issu de deux familles maraboutiques en Algérie, du côté de mon père qui a appris le Coran à l'âge de 14 ans et qui l'a enseigné à l'âge de 17, et du côté de la famille maternelle, qui est une grande confrérie dans l'Est algérien. Moi-même, j'ai appris le Coran, enfin, j'ai appris la moitié du Coran que j'ai oublié, hélas, depuis. Il m'en reste quelques bribes. Et j'ai grandi dans une atmosphère de religiosité pieuse et pratiquante jusqu'à assez tard dans mon existence. Donc, je connais un peu de l'intérieur et un peu de l'extérieur ce dont je vais essayer de vous parler. Alors, je ne vais pas vous faire un historique de ce que c'est que l'islam. Vous pouvez le trouver sur n'importe quel site, ça, c'est pas très difficile. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'essayer de donner du sens à toutes ces notions-là que l'on entend un peu partout. Qui sont galvaudés, qui sont utilisés, à mon avis, très souvent à tort et à travers. Je ne prends qu'un seul petit exemple. J'ai entendu une candidate à la primaire de la droite et du centre qui disait « il faut interdire le salafisme ». Quand je vais vous dire qu'est-ce que c'est que le salafisme, vous allez vous apercevoir combien c'est une absurdité de dire « il faut interdire le salafisme ». C'est comme si vous disiez « je vais interdire le jésuitisme ». Le salafisme est une école de pensée, hein, et son utilisation, son interprétation à tort et à travers a fait que maintenant, eh bien, ça recouvre un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu contre les idées reçues que je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques jalons qui vous permettent de vous retrouver dans ce qui, aujourd'hui, hélas, fait un peu l'actualité, dans cette atmosphère dans laquelle on parle de retour du religieux, et que je préfère plutôt qualifier de recours au religieux. Le religieux est particulièrement... La religion musulmane, mais pas seulement, hein, devient une espèce de ressource dont on se sert. Je dis pas seulement parce que il faudrait que l'on sache qu'aujourd'hui, la plus grande part de prosélytisme dans le monde, c'est les évangéliques, les évangélistes protestants. C'est eux qui sont véritablement en tête de l'action prosélyte. Bien, je reviens donc au sujet de mon propos ce soir, qui est l'islam. Alors l'islam, d'abord, dans un premier temps, dans quel contexte historique est née cette religion ? Contexte géo-socio-historique et culturel de l'apparition de l'islam. L'islam est apparu au 7e siècle de l'ère chrétienne. Il est apparu dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite, qui était à l'époque l'Arabie, le Najd en arabe. C'était un grand désert et c'était un parcours de caravanes de marchands. C'était donc un pays de nomades, de pasteurs et de marchands. L'organisation sociale était fondée sur la tribu et le clan. L'organisation familiale était celle de la famille large et étendue, ce que l'on appelle le Arsh. Et dans tout ça, vous allez avoir des tribus puissantes et d'autres qui le sont moins. On va voir après que ça peut avoir une grande importance. Le contexte culturel est un contexte marqué par une langue très riche et très belle. On dit souvent que le poète était un analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est vrai. Mais il n'était pas nécessaire de savoir lire ni écrire pour maîtriser cette langue. C'était la langue du commun. Et cette langue du commun était celle qui a donné, par exemple, la grande poésie qui est connue dans l'histoire de la poésie, dans l'histoire littéraire arabe, comme étant la poésie anté-islamique. Anté-islamique, avant l'islam. Les plus grands poètes, parmi les plus grands poètes de la langue arabe, se trouvent être précisément des gens de cette période. La preuve, c'est qu'on collectionnait, on sélectionnait, pardon, les poèmes les plus représentatifs et on les accrochait à ce qui allait devenir la pierre sainte, la Kaaba. Et on appelait ça les mu'allaqat, c'est-à-dire les suspendus, les poèmes qui sont suspendus. Évidemment, les poètes étaient aussi en même temps des poètes guerriers, hein, Antab Mushaddad et d'autres dont je n'ai pas le nom et que je peux retrouver, que je retrouverai tout à l'heure. Il y avait même l'organisation de joutes poétiques, qu'on appelait des espèces de souks à la poésie, hein, qu'on appelait le souk uqad, hein, c'est le lieu où se passaient les souks, et il y avait des espèces de joutes poétiques dans lesquelles les gens s'amusaient. Par exemple, l'un des jeux favoris de ces poètes, c'était de commencer le vers suivant par la rime du vers qui était cité par le vis-à-vis, et ainsi de suite. Il y avait donc une atmosphère et un contexte culturel extrêmement riche. Mais paradoxalement, c'est une période que l'islam va considérer comme la période de l'ignorance. Il va l'appeler la jahiliya, c'est-à-dire là où régnait l'ignorance, parce que l'islam, précisément, va être la lumière qui va éclairer tout ça. la période de l'ignorance, non pas par rapport à la langue, puisque la langue va rester la même, mais par rapport aux croyances. Les croyances de l'époque étaient des croyances animistes, paganistes et polythéistes. À la limite, chaque tribu pouvait avoir son dieu ou ses dieux. Les plus connus, c'était Wed, Hubel, etc. Vous aviez un certain nombre de divinités comme ça qui étaient vénérées. Et à partir du moment où le monothéisme islamique va s'imposer par la suite, évidemment, cette période va être considérée comme la période de l'ignorance. À tel point que, par exemple, quand l'un des grands dirigeants des frères musulmans, j'y reviendrai par la suite, hein, en Égypte, Sayyid Qutb, va parler des régimes des pays arabes. Sayyid Qutb, c'est la première moitié du XXe siècle. C'est l'un des successeurs du fondateur des frères musulmans en Égypte. Quand il va parler des régimes des pays arabes et musulmans, il va les considérer comme appartenant à la période pré-islamique, anté-islamique. Il va dire que c'est des situations de jahiliya. C'est pour vous dire tout le discrédit qui pouvait peser sur cette période dans cette sphère dans laquelle naîtra l'islam. Évidemment, dans cette situation-là, le monothéisme juif et chrétien était très présent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière, il y a eu un excellent documentaire sur Arte, hein, qui s'appelait « Jésus dans le Coran », où un certain nombre de spécialistes affirmaient que, comme le christianisme a été se voulait une réforme du judaïsme, l'islam au départ se voulait aussi une réforme du christianisme. Donc, c'est pour vous dire la forte présence du judaïsme et du christianisme. Le judaïsme, on va voir que le prophète va avoir affaire aux juifs quand il va aller, quand il va s'exiler de la Mecque vers Médine. J'y reviendrai. Mais le christianisme, beaucoup de chercheurs, aussi de spécialistes, disent que le prophète aurait été élevé par une secte chrétienne. Donc, toutes les hypothèses sont émises à ce sujet. Toujours est-il que, à côté du polythéisme des tribus arabes, existait aussi et fortement implanté une présence du judaïsme et du christianisme. Voilà pour aller vite un petit peu sur l'atmosphère, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à traiter. Alors, l'islam comme religion est venu par le messager de Dieu, Rasulullah, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, Mohammed. Alors ici, en France, je sais pas, peut-être en Angleterre aussi, je ne sais pas, mais on dit Mahomet depuis Voltaire, je crois, ou depuis le XVIIIe siècle. J'ai toujours trouvé ça... Je ne sais pas pourquoi on l'appelle... Il y a tellement de Mohammed aujourd'hui en France, de Mohamed. On peut tout simplement dire Mohamed. Hein, c'est, je ne sais pas pourquoi on dit Mahomet. Bon, bref. Ce Mohammed... dans l'histoire, peut être considéré comme l'un des plus grands réformateurs religieux et social que le peuple arabe a connu. Il est né à la Mecque 570-571. Il n'y avait pas d'état civil à l'époque. Hein. Donc, c'est entre 570-571. Il est né dans la tribu des Banu Quraysh, dans le clan des Banu Hashim, les Hashimites. Hein. Le roi de Jordanie aujourd'hui fait partie de cette tribu, ou de ce clan des Hachimites, des Banu Hashim. Quraysh, vous avez beaucoup de noms propres dans les pays du monde musulman qui s'appellent Quraishi. Un grand peintre, miniaturiste, dessinateur algérien s'appelle Rachid Quraishi. Quraishi, ça vient de Banu Quraysh. Et Hashim, il semblerait que le sinistre Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, là, se soit attribué la descendance de Hashimite. C'est s'octroyer un titre de légitimité, tout simplement. Il n'a rien à voir avec les Hashimites. En plus, il s'appelle Baghdadi, il n'est même pas de Bagdad. Bref. Alors, Mohammed est donc né dans cette tribu, dans ce clan, très tôt orphelin de père et de mère. Il a été élevé par une nourrice qui s'appelle Halimat Saadia, Halima, et du côté paternel, par son oncle, Abu Talib, qui n'embrassera pas l'islam. Mais Abu Talib, c'est le père du cousin du prophète, Ali, père de Ali. Ali qui va épouser la fille du prophète. Et Ali est important, on va le voir par la suite, parce que c'est de là que va partir le chiisme. Vous savez, l'opposition sunnite-chiite, c'est à partir de Ali. Mais j'y reviendrai. Il est élevé donc par Abu Talib, mais il est très vite, il prend son émancipation assez vite, grâce notamment à celle qui va être sa première femme, Khadija, qui va l'initier au commerce. Khadija est quelqu'un qui va être connu aussi, qui s'appelle Waraka ibn Nawfal, qui vont le prendre un petit peu dans leur sein et qui vont l'initier au commerce. Il grandit donc dans cette atmosphère et c'est à 40 ans qu'il va recevoir le message. C'est pour ça que très souvent chez les musulmans, l'âge véritablement de la maturité, de la sagesse, c'est 40 ans. Je me souviens très bien, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du Front islamique du salut. Hein, le FIS en Algérie, qui était ce fameux parti qui avait gagné les élections législatives et puis le pouvoir algérien a décidé d'interrompre le processus électoral et ça a été le début d'une décennie atroce en Algérie. Quand le fils avait le Front islamique du salut avait le vent en poupe, qu'il était vraiment à la grosse mode, tous les gens voulaient se présenter au nom du fils. Et l'un de mes frères, de mes jeunes frères, voulait être candidat à la municipalité du village où j'habitais, sur les listes du Front islamique du salut, du fils. Il est allé en parler à mon père, qui était un homme pieux, il est mort depuis. Et mon père a eu cette réponse, il lui a dit, écoute, Dieu a attendu que le prophète ait 40 ans pour lui donner le message. Tu n'as pas encore 40 ans. Le jour où tu auras 40 ans, tu pourras voler tes propres ailes en matière de politique et de religion. En attendant, c'est en mon propre nom que tu vas te faire élire, je n'accepte pas. Donc, l'âge de 40 ans est un âge assez emblématique dans l'islam. C'est à 40 ans que... Excusez-moi, j'aime bien raconter des histoires comme ça. Hein. Je trouve que ça permet de moins s'ennuyer. À 40 ans, il reçoit son message, mais il a beaucoup de difficultés à la Mecque. Et notamment, surtout de la part des siens qui le contestent et qui se révoltent contre lui, il est obligé de s'enfuir à Médine. Et en 622, il fait ce que l'on appelle la Hijra. La hijra, ça veut dire l'exil. Ça finit aussi par être synonyme d'émigration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les immigrés, on les appelle muhajiroun. Hein? Et c'est à partir de cette date que commence le calendrier musulman. Le calendrier musulman ne commence pas avec la naissance du prophète comme dans le christianisme. Il commence avec l'exil à Médine, la hijra. Et très souvent, vous entendez ce mot hijra chez les nouveaux salafistes, hein, ici en France, en Europe, etc. Je vais faire ma hijra. Alors retourner en terre d'islam. Hijra, c'est exil, c'est le moment ou la date à laquelle le prophète est allé de la Mecque vers une ville qui à l'époque s'appelait Yathrib. Yathrib, Yathrib, dans laquelle il y avait beaucoup de tribus juives et qui depuis s'est appelée Médine. Alors Médine, ça veut dire quoi? Médine, ça veut dire la cité, hein, ça veut dire la ville. Hein. Et en réalité, Médine, c'est Al-Madina Al-Munawwara, la ville ou la cité radieuse, lumineuse, c'est-à-dire la ville du prophète. Madina Tun-Nabi, la ville du, la cité du prophète. Donc, on a retenu simplement Médine. Et c'est là, à Médine, que va se constituer l'État islamique. C'est-à-dire qu'à Médine, finalement, le prophète n'est plus seulement un chef religieux, c'est plus seulement un prédicateur, c'est aussi un chef politique. C'est là que se constituent véritablement les prémices de l'État islamique. C'est d'ailleurs là qu'il va y avoir le plus de relations, pas toujours très bonnes, entre le prophète, c'est-à-dire l'islam, et les tribus juives, c'est-à-dire le judaïsme, les juifs. Et vous, pour ceux qui ont lu le Coran, vous vous apercevez qu'il y a une grande partie de versets dans lesquels les juifs sont vus sous un œil extrêmement positif, comme les gens du livre, ils sont valorisés, etc. Et dans beaucoup d'autres versets, ils sont considérés vraiment d'un point de vue... D'accord. Dans lesquels les juifs sont vus plutôt sous un aspect négatif, ça s'explique tout simplement par les alliances et les mésalliances qu'il pouvait y avoir entre le prophète d'une part et les tribus juives d'autre part. Quand ça allait bien, ben ils sont bons. Quand ça ne va pas, évidemment, ils sont mauvais. Alors, à partir de ce moment-là, donc, consécration du monothéisme originel et constitution politique de ce que va être la communauté musulmane, la Ummah. C'est à ce moment-là que se constitue véritablement et l'État islamique et la communauté musulmane. La Kaaba, c'est-à-dire cette grande pierre noire qui a été fondée par Abraham et par son fils Ismaël dans l'historiographie et dans la tradition islamique, reste quand même, la Kaaba, c'est cette grosse pierre au centre de la mosquée de la Mecque, hein, qui est recouverte d'un drap noir, hein, ça reste quand même le point focal, le point de convergence vers lequel vont tendre véritablement tous les efforts de cet État islamique. Et donc, en 630, c'est-à-dire 8 ans après s'être exilé, 630, la conquête de la Mecque. Le prophète repart à la conquête de la Mecque et il attendra 2 ans pour faire le pèlerinage, le Hajj. Le prophète fera son premier pèlerinage, qu'il instituera par la suite comme l'un des piliers de l'islam. Je vais y revenir par la suite. Et il mourra quelques mois après. Donc, voilà un petit peu le cheminement, très très rapidement, mais on pourra revenir après, si vous voulez, à travers vos questions, sur cet itinéraire. Ce qu'il y a de particulier, et ce qu'il faudra retenir, c'est que, par rapport au judaïsme et au christianisme, l'islam institue ce qu'on appelle la shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. L'équivalent dans le christianisme serait peut-être le sacrifice du Christ. C'est-à-dire que le Christ est sacrifié pour rattraper, pour acheter le péché des hommes. En islam, le prophète, le jour du jugement dernier, intercède auprès de Dieu pour protéger sa communauté. Shafa'a, et vous retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, vous retrouvez dans tous les qualificatifs qu'on attribue au prophète, Ishfa'afina, il va intercéder en notre faveur. Alors, le Coran, maintenant. Le Coran, c'est étymologiquement la lecture, le Coran, ce que l'on lit, qara'a, lire, hein, c'est le livre, donc. La traduction, c'est le livre. Le Coran, c'est la parole divine, hein, c'est la parole de Dieu. C'est pas comme les évangiles, le récit des apôtres ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est la parole divine pour tous les musulmans, absolument tous. J'ai eu la stupéfaction de lire sous la plume de quelqu'un quand même qui a écrit un livre qui s'appelle « Penser l'islam », Michel Onfray. Il vante les mérites d'une école théologique musulmane rationaliste qui s'appelle les Mu'tazila, 9e siècle. Et à cette époque, il y avait une controverse, une grande controverse philosophique, parce que entre le 9e et le 11e siècle, la civilisation musulmane était une civilisation de la libre parole. Véritablement, une civilisation dans laquelle tous les débats étaient permis, absolument tous. Et l'école Mu'tazilite était une école rationaliste, c'est-à-dire qui fonctionnait suivant la raison humaine. D'ailleurs, à peu près toutes les écoles à cette époque-là s'inspiraient en tout ou en partie des philosophes grecs. C'est les Arabes qui ont c'est les musulmans qui ont traduit les philosophes grecs et les principaux, c'est-à-dire Platon, Aristote, et donc s'inspiraient beaucoup, énormément de ces philosophes, et toute la théologie musulmane de ce que l'on appelle ilm al-kalam, la science du discours, mais du discours religieux, hein, du discours de la parole de Dieu, était s'inspirer notamment de la philosophie platonicienne et aristotélicienne. Donc les Mu'tazila, qui étaient des rationalistes, dans la polémique, dans la controverse, qui consistait à se demander, est-ce que le Coran est une parole, est-ce que le Coran est créé ou incréé? Et c'est une controverse qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire créer ou incréer? Créer, ça veut dire qu'il est apparu à un moment déterminé, qu'il a été créé à un moment, donc qu'il est contextualisable, donc qu'il est interprétable. Si on dit que le Coran est une parole créée, ça veut dire qu'à chaque époque devra correspondre une interprétation de l'islam. Et d'autres contre les Mu'tazila et contre d'autres, vont dire non, le Coran est une parole incréée, c'est-à-dire qu'il a de tout temps existé, et qu'il a été simplement révélé à un moment. Donc il n'y a pas d'interprétation possible. Il faut appliquer à la lettre. Et Michel Onfray fait la lecture suivante. Il dit, les Mu'tazila disaient que c'est une parole créée, donc ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole créée par les hommes. Absolument faux. Aucun musulman, absolument aucun, aussi rationaliste soit-il, ne peut admettre un seul instant que le Coran puisse être autre chose que la parole de Dieu. Ça, c'est une vérité pour tous les musulmans. Seulement, pour certains, ça peut être quelque chose de contextualisable, donc à placer dans un moment, et par conséquent à interpréter en fonction des circonstances. Et pour d'autres, non, c'est quelque chose d'absolu, d'incréé, donc qui existe de tout temps, et qu'il n'y a pas besoin d'interpréter. Je ferme la parenthèse et je reviens un petit peu donc au Coran. Parole divine, révélée entre 610 et 632. Alors le Coran est divisé en chapitres. Alors dans le Coran, il y a des versets. Et les versets sont regroupés par surat. Le surat, les surats, c'est le pluriel de surah, c'est-à-dire un chapitre. Les surats, c'est des chapitres. Il y a 114 sourates qui sont dans le Coran dans un ordre dégressif de la plus longue vers la plus courte. En gros, hein, il y a des sourates à la fin qui sont plus ou moins courtes. Hein. Le verset s'appelle en arabe Aya, qui veut dire preuve aussi. Et il y a aussi d'autres regroupements, d'autres façons de regrouper les ayats et les sourates qui s'appellent les hizb, qui sont des parties du Coran. Il y a 60 parties. Alors le Coran, on l'utilise pour la récitation, la recension. Je ne sais pas comment dire. Si je dis c'est écrit, c'est comme si c'était la parole des hommes. Si je dis c'est dicté, non. Enfin, le Coran existe sous forme... c'est pas de la poésie, parce que c'est pas rimé, mais c'est une prose assez élaborée. C'est très... Pour ceux qui comprennent l'arabe, quand vous le lisez, c'est une langue qui est presque... une espèce de translinguistique, comme ça. Parfois, c'est redondant, ça répète, c'est presque rimé parfois, etc. Ce qui produit un effet esthétique très fort. D'ailleurs, très souvent, et dans nos pays, nous avons tous appris le Coran sans le comprendre au début. Hein. On n'avait pas encore l'âge de bien comprendre, et à plus forte raison, une langue aussi élaborée que celle qui est dans le Coran. Et on a quand même appris phonétiquement le Coran. Je l'ai appris, j'ai terminé mon apprentissage de la moitié du Coran, je devais avoir 12-13 ans. Je ne comprenais pas la grosse moitié de ce que j'apprenais. Mais ça nous pénètre et ça nous structure. C'est à l'intérieur de cette langue-là que se fabriquent les imaginaires, que se fabrique le rapport au monde. Il est utilisé aussi pour la prière. Il y a la sourate d'ouverture, qui s'appelle l'ouverture, d'ailleurs la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, etc., etc., hein, qui est utilisée à chaque fois dans les prières, à chaque prière. C'est quelque chose que l'on répète. En y ajoutant d'autres sourates, mais celle-là, elle est absolument indispensable. Alors, il y a des sourates qui ont été révélées à la Mecque, et il y a des sourates qui ont été révélées à Médine. Alors, si vous prenez les sourates mécoises, la grande majorité de ces sourates-là ont un contenu beaucoup plus symbolique, métaphysique, philosophique, qui s'adresse beaucoup plus à la foi de l'individu, à la croyance. Les sourates médinoises sont en grande majorité des sourates d'organisation de la communauté et du comportement. Et donc, en plus, il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de versets dans le Coran qui se contredisent. Enfin, qui ne se contredisent pas littéralement. Mais on a l'impression vraiment qu'il y a des versets qui disent le contraire d'autres versets. Et ça, c'est le principe de, la primauté de l'antécédence, mais au contraire, le fait que lorsque un verset arrive et qu'il ne dit pas la même chose que le verset précédent, c'est le verset postérieur qui rectifie le verset arrivé avant. Et tout simplement parce que les circonstances font qu'il y a un certain nombre de versets qui rectifient, qui amendent les versets précédents. Il y a un duo d'intellectuels égyptiens qui s'appelle, ils ont un pseudo, s'appelle Mahmoud Hussein. Et en fait, ces deux, Rifat, je ne sais pas comment, et Bahjat, je ne sais pas comment, Rifat et Bahjat, se font appeler Mahmoud Hussein. Ils ont écrit il y a une dizaine d'années un petit livre absolument superbe qui s'appelle « Penser le Coran ». Et dans ce livre, ils montrent très bien comment, à l'époque du prophète, les musulmans étaient infiniment plus intelligents qu'aujourd'hui. Plus intelligents et plus courageux. Parce que quand un verset ne leur correspondait pas, que ça ne leur convenait pas, quand ça n'allait pas, ils allaient voir le prophète et lui disaient « Écoute, demande à ton Dieu de rectifier ça parce que ça ne va pas. » Et Mahmoud Hussein montre très bien comment, assez souvent, eh bien, il y avait des versets qui rectifiaient. Je prends l'exemple de l'alcool, par exemple. Le premier verset qui parle de l'alcool, c'est « Ô vous qui croyez, n'approchez pas la prière en étant en état d'ébriété. » Ya ayyuhalladhina amanu la taqtaribu as-salata wa antum sukara. C'est clair. N'allez pas à la prière en étant en état d'ébriété. Point. Mais ça ne suffisait pas. Alors, quelque temps après, il y a un autre verset qui vient qui dit le vin, les jeux d'argent, ceci, cela, il y a une énumération de choses qui sont néfastes, il dit, comportent des bienfaits, mais comportent des méfaits, et leurs méfaits sont supérieurs à leurs bienfaits. Ça ne suffisait toujours pas. Troisième verset, innama al-khamru wal-maisiru wal-an'ama, etc., etc., min a'mal al-shaytan fajtanibuh. C'est l'alcool. Enfin, quand je dis l'alcool, c'est un abus de langage. Parce qu'on dit le khamr. Le khamr, dans le Coran, en arabe, c'est ce qui est fermenté. Donc, à la limite, ce qui peut enivrer. Pas seulement l'alcool. Donc, le khamr, la viande non égorgée, etc., etc., sont des actes du shaitan, du démon, fajtanibou, évitez-le. Donc c'est un ordre, ne vous en approchez pas. Certains coupeurs de cheveux en quatre disent que lorsque Dieu a voulu interdire la viande de porc, par exemple, il a dit « hurrima », c'est-à-dire « c'est haram », c'est interdit. Il n'a pas dit pour l'alcool, pour le khamr, « hurrima », il a dit « évitez-le ». Autrement dit, il n'y a pas le même degré d'interdiction que pour les autres, que pour les autres choses. Bref, mais c'est des pinailleries, c'est des discours byzantins, comme on disait à l'époque. Donc voilà pour le Coran. Le Coran est la principale source de légitimité de la loi religieuse. Je dis la principale parce que généralement elle est associée à ce que l'on appelle la sunna. Hein? Je vais vous dire après qu'est-ce que c'est que la sunna. Mais il y a beaucoup de réformateurs aujourd'hui qui disent on ne retient pas la sunna comme source de la loi religieuse. On ne retient que le Coran. Parce que la sunna, qu'est-ce que c'est la sunna? Sunna en arabe veut dire tradition. Alors qu'est-ce que c'est la tradition en islam? C'est les paroles et les actes du prophète. Et accessoirement de ses compagnons. Mais surtout du prophète. Et particulièrement ce qu'il a dit, les hadiths. Vous entendez parler des hadiths du prophète. C'est les dits du prophète, ce qu'il a dit. Alors les réformateurs qui veulent exclure la sunna disent les hadiths ne sont pas confiants. On ne peut pas leur faire confiance. Ils ne sont pas crédibles. Donc on ne retient que le Coran. Mais généralement, pour les musulmans, pour la quasi-totalité du monde musulman, les sources de la loi religieuse sont le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les hadiths. Alors, d'où proviennent les hadiths? Ils proviennent d'une tradition séculaire hein, qui a rapporté les dits du prophète. Alors, il y a beaucoup de recensions des dits du prophète. Généralement, il y a deux livres qui sont les plus crédibles et qui recensent les dits du prophète les plus fiables, si vous voulez. C'est la recension faite par Bukhari et la recension faite par Muslim. Quand on dit qu'un hadith est cité par Bukhari ou par Muslim, c'est généralement un hadith fiable. Hadith, je le répète, c'est les dits du prophète, hein. Ce sont deux auteurs du 9e siècle qui ont donc fait la recension des hadiths. Le Coran, les hadiths, c'est-à-dire la sunna, sont les deux principales sources de la loi religieuse. La loi religieuse dont vous allez entendre parler très souvent dans le terme de la charia, hein, la fameuse charia, hein, charia. Sharia en arabe, ça veut dire la voie, donc la loi. C'est un système de règles, de normes, de valeurs qui régit la vie des musulmans. Et cette sharia va être codifiée dans des codes juridiques que l'on va appeler le fiqh. Le fiqh, c'est le droit. Donc, ce n'est pas la charia qui est le droit musulman. La charia, c'est la règle, c'est la loi générale dont l'interprétation va donner le fiqh. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Il y a plusieurs écoles d'interprétation du fiqh. En général, chez les sunnites, on parle de quatre écoles juridiques. Je vais y revenir après. Mais dans cette charia, dans cette norme, dans cette loi religieuse, tout est question d'interprétation. Alors, L'interprétation en arabe, ça s'appelle l'ijtihad. Et vous allez remarquer que c'est le même mot que jihad. C'est la même racine. On va voir après comment jihad, en fait, c'est le combat au sens de l'effort. Jihad, c'est pas forcément le combat violent. J'y reviendrai par la suite. Donc, l'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation que l'on peut faire pour justement expliciter ou interpréter cette loi religieuse. Alors, Coran, Sunna et Madhahib. Alors, les écoles religieuses. Avant de vous parler des écoles religieuses, je vais tout simplement vous dire que du 8e jusqu'au 11e siècle, les efforts d'interprétation de la loi religieuse et les efforts d'interprétation de la charia ont été florissants. Mais à partir de du 11e siècle, peut-être est-ce dû à la décadence de l'Empire musulman, mais en tout cas c'est concomitant de la décadence politique et économique, le fait est que un certain nombre de jurisconsultes et de théologiens ont dit que les portes de l'ijtihad, les portes de l'interprétation sont fermées. Plus d'interprétation possible. On applique à la lettre. Alors, est-ce que c'est la décadence politique, économique, qui a fait que l'effort d'interprétation s'arrête et que par conséquent le déclin soit un déclin sociétal total de l'islam à partir du 11e, 12e siècle? Ou alors est-ce que c'est ce déclin intellectuel qui a fait que justement, ça se continue par un déclin économique et politique. Quelle est la cause? Quel est l'effet? Les écoles historiennes et historiques divergent. Il y a eu une seule exception à cette décadence, hein, à partir du 11e siècle, fin 11e, début 12e, c'est le grand penseur du Maghreb, qui est Abdelrahman ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun est un grand méconnu, notamment ici en France, alors que paradoxalement c'est un Français qui l'a découvert, c'est le baron de Slane. Et Abdelrahman ibn Khaldoun est le premier à avoir pensé l'histoire comme une science, c'est-à-dire à avoir pensé que l'islam, c'était pas simplement le récit des événements, c'était aussi l'explication des événements, en en déterminant la cause. Et l'analyse des causes de l'histoire, c'était l'analyse des systèmes politiques par ce qui les conditionnait, ce qui leur donnait de la force, l'esprit de corps, etc. Il avait même été un peu à l'origine de ce que l'on a connu par la suite comme étant la théorie des climats. C'est-à-dire que plus il faisait chaud, moins les gens travaillaient, moins ils faisaient. Ce que Montesquieu va développer par la suite au XVIIIe siècle. À part l'exception de Abdelrahman ibn Khaldoun, à partir de la fin du XIe siècle, c'est fini. L'Empire musulman va entrer en décadence sur tous les plans. Alors, les écoles, les madhahib, je vous parlais de l'interprétation de la charia, l'interprétation religieuse, de la loi religieuse. Il y a quatre écoles, je vous les cite en vous disant tout simplement que c'est des écoles du sunnisme. Alors, pour que vous compreniez ça, je vais essayer de faire un retour en arrière vers les débuts de l'islam, pour que vous compreniez comment est née cette différence justement entre sunnisme et chiisme. À la mort du prophète, c'est l'un de ses compagnons. Merci beaucoup. Merci. À la mort du prophète, c'est l'un de ses plus proches compagnons qui est désigné comme successeur. C'est Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq est quelqu'un qui a été désigné par consensus. Et à sa mort, c'est un autre compagnon qui est Omar ibn al-Khattab, qui est connu pour être quelqu'un d'extrêmement rigoureux, incorruptible. On retient de lui une phrase extrêmement célèbre qui serait peut-être assimilable à une interdiction de fait de l'esclavage et de l'exploitation. Il disait à un gouverneur chez qui il avait trouvé des esclaves, il disait: depuis quand avez-vous réduit les hommes en esclavage alors que leurs mères les ont enfantés libres? C'est une phrase qui est incontestablement attribuée à Omar ibn Khattab et qui peut être véritablement l'antécédence de tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en quelque sorte. Depuis quand avez-vous réduit les hommes en esclavage alors que leurs mères les ont enfantés libres? Textuellement, c'est la traduction. Je traduis tout seul, mais c'est la traduction littérale et en même temps le sens est là. Donc Omar ibn Khattab meurt assassiné par un incroyant. C'est un meurtre qui n'est pas à proprement parler politique. Après Omar ibn Khattab, c'est Uthman. Uthman à qui l'on doit la première... avant Uthman, il y avait plusieurs versions du Coran qui circulaient. Et Uthman a décidé qu'il n'y aurait qu'une seule recension. Et depuis, c'est ce Coran-là que l'on connaît. C'est depuis Uthman ibn Affan, le troisième calife. Uthman est assassiné. Est assassiné par des membres d'une tribu opposée. Et ça crée une zizanie à l'intérieur de la communauté musulmane. Des compagnons, Talha, Zubair, la veuve du prophète, Aïcha, le gouverneur de Damas, Muawiyah, etc., n'acceptent pas ce meurtre. Et après le meurtre, c'est après la mort de Uthman, c'est Ali, le cousin du prophète dont je vous ai parlé au début. J'avais dit que le prophète avait été élevé par son oncle Abu Talib. Et le fils de Abu Talib, c'est Ali. Eh bien, ce Ali est désigné comme quatrième calife. Aïcha, qui avait un vieux compte à régler avec Ali, Talha et Zubair, Muawiya, qui est d'une famille concurrente de la famille du prophète, les Omeyyades, se soulèvent contre Ali. C'est ce que l'histoire de l'islam appellera la grande discorde, le grand schisme à l'intérieur de l'islam. Par une espèce d'entourloupe politique, Muawiya destitue Ali et prend le pouvoir, se crée alors un groupe qui s'appelle les sortants, les kharijites, qui en veulent à Ali de s'être laissé faire et qui finissent par l'assassiner. Et puis surtout va se créer un grand, grand groupe qui ne va reconnaître que la légitimité de Ali, qui vont se dire le parti de Ali, Shi'at Ali, Shi'a. C'est le chiisme. Le chiisme qui va partir du principe que la légitimité est une légitimité familiale et que par conséquent, c'est Ali qui aurait dû prendre la succession et garder la succession. Et de l'autre côté, il va y avoir ceux qui vont dire l'essentiel, c'est de garder l'unité de l'empire musulman et de s'en tenir à la tradition, c'est-à-dire la sunna, les sunnites. C'est là que va se créer le grand schisme de chiites sunnites. les chiites, ce sont ceux qui vont suivre Ali et sa famille. Ali a eu deux fils qui sont les petits-fils du prophète, Hassan et Hussein. Et de l'autre côté, vous allez avoir la grande majorité des musulmans qui vont s'en tenir à la tradition, qui vont s'en tenir à la sauvegarde de l'Empire et qu'on va appeler les sunnites. Alors les chiites, vous avez les chiites qui considèrent... Pour les chiites, il y a le prophète, mais il y a son successeur, c'est l'imam. Et il y a ceux qui considèrent qu'il y a eu 7 imams, et il y a ceux qui considèrent qu'il y en a eu 12. Les septicémains et les duodécimains. Mais pour les deux, il y a un imam caché qui apparaîtra à la fin des temps. Pour les sunnites, Muawiya, celui qui a pris la succession de Ali, qui a destitué Ali, qui a pris sa succession, va instituer le califat héréditaire. C'est-à-dire que ça va être ensuite son fils, Yazid, etc. Et le califat Omeyyade va durer jusqu'au 9e siècle. Ensuite, ça va être les Abbasides qui vont transférer la capitale à Bagdad. Les Abbasides vont régner un certain nombre, quelques siècles, jusqu'à l'arrivée des invasions étrangères, et puis après le califat ottoman, etc., jusqu'à la fin du califat au début du XXe siècle. Alors dans le sunnisme, vous allez avoir 4 écoles juridiques. L'école qui sont fondées par des théologiens. L'école hanafite de Abu Hanifa, hanafite. L'école shafi'ite de Shafi'i. L'école malikite et l'école hanbalite. Alors, le hanafisme, c'est l'école juridique la plus tolérante, la plus ouverte, qui est fondée par Abu Hanifa. Dans la chronologie, c'est... Je ne me souviens plus si c'est Shafi'i la première ou si c'est Abu Hanifa la première. C'est l'une des deux. Je crois que c'est Shafi'i. L'école Shafi'ite, c'est Shafi'i. L'imam Shafi'i qui est le premier. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais enfin, l'école d'Abu Hanifa est la plus ouverte, la plus tolérante. C'est l'école qu'on retrouve aujourd'hui en Turquie. Encore que maintenant, aujourd'hui, c'est un islam mondialisé. C'est l'islam d'Arabie Saoudite qui prévaut un peu partout. Mais bon, pendant très longtemps, c'est une école juridique d'interprétation de la loi religieuse que l'on retrouvait en Turquie et notamment dans les républiques d'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques. L'école Shafi'ite est une école un peu moins tolérante, mais qui reste quand même malgré tout pas excessivement rigoureuse, et que l'on retrouve en Égypte, grande partie de l'Égypte, mais surtout en Indonésie, dans certains pays d'Afrique, etc. L'école malikite, c'est l'école qui, normalement, en toute bonne logique, aurait dû être celle qui est pratiquée en France, puisque la majorité des musulmans en France sont issus des générations d'immigrés maghrébins. L'école malikite, c'est l'école du Maghreb, l'école de Malik ibn Anas. C'est une école qui se fonde essentiellement sur le consensus. C'est-à-dire, pour qu'une interprétation soit valable, il faut qu'elle ait le consensus des oulémas, des savants musulmans, des théologiens. L'école Hanbalite, c'est l'école la plus terrible. C'est l'école la plus... Ibn Hanbal, c'est l'école la plus rigoureuse. c'est l'école dont va s'inspirer un théologien en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle qui s'appelle Abdel Wahhab, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui va donner le wahhabisme, hein, dont on entend beaucoup parler ici en France. C'est une école littéraliste. C'est une école absolument littéraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est tout simplement l'application littérale. Et c'est une école qui s'inspire notamment d'un théologien du XIe siècle, Ibn Taymiyyah, et de son compère, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ce sont des théologiens qui ont mis fin, en quelque sorte, aux efforts d'interprétation de la loi religieuse et qui, par conséquent, stipulent que simplement, il faut simplement appliquer littéralement la loi religieuse. Très rapidement, je vais passer maintenant à qu'est-ce qui constitue en fait les piliers de la religion musulmane. C'est quoi? Alors la première exigence, si vous voulez, de la religion musulmane, c'est d'abord l'acte de témoignage, la shahada. Shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Allah, et que Muhammad est son prophète. Ça, c'est le premier acte par lequel on entre dans l'islam. C'est le seuil, c'est la porte d'entrée. Deuxième pilier, c'est la prière. 5 prières par jour qui suivent la rotation du soleil. Le lever du soleil, le soleil au zénith, le fait que le soleil descend dans le ciel, le coucher du soleil et la nuit. 5 prières. Le matin, le midi, l'après-midi, le crépuscule et le soir. Subh, dhuhr, le maghrib, l'asr, le maghrib ou l'aïcha. C'est les cinq prières. Voyez comment la religion, c'est pas simplement une question de croyance ou de foi. C'est surtout une question de communauté. On croit pour ne pas être seul. C'est-à-dire que le fait, une religion, c'est d'abord et surtout une communauté. Regardez comment dans l'islam, la question de la prière est secondaire par rapport à la question du ramadan. Parce qu'en fait, la question est sociale. Beaucoup de musulmans accordent plus d'importance au jeûne du ramadan qu'à la prière. Ils peuvent être négligents sur la prière, mais ils ne seront pas négligents sur le ramadan. Alors que le ramadan, dans la hiérarchie des actes et des piliers de l'islam, le ramadan arrive en troisième position. Après, quand je ne faisais pas la prière, mon père se moquait de moi, il me disait « Mais pourquoi tu fais le ramadan ?» Si tu ne fais pas la prière, ça ne sert à rien ton ramadan. Parce que pour un homme pieux, véritablement, la prière passe avant. Quand on est malade, on est obligé de faire sa prière, sous d'autres formes, mais on est obligé de la faire. Mais le ramadan, si on est malade, on est dispensé. Enfin, dispensé, on peut le rattraper. Il y a des cas de dispense du ramadan. C'est quand on est malade ou quand on est en voyage. Enfin, à l'époque, le voyage était quelque chose de pénible. Maintenant, il y en a beaucoup qui voyagent en première classe en avion et qui ne font pas le ramadan et disent « je suis en voyage ». Et donc, troisième pilier, le ramadan. Alors pour la prière, je vous l'ai dit, hein, même quand on est sur son lit de malade, et qu'on ne peut pas bouger, il y a certaines prescriptions et recommandations pour faire la prière seulement avec les yeux. C'est-à-dire que la prière est quelque chose d'absolument incontournable. Alors que pour le ramadan, on peut s'accommoder. On peut accommoder le fait. Shahada, prière, le jeûne, la zakat. La zakat, c'est l'aumône. Alors l'aumône, il y a des formes. Il y a la première forme qui est le dixième. Le dixième du revenu. Mais en général, il y a eu des fatwas pour dire que dans les pays musulmans, c'est l'impôt de l'État qui représentait la zakat. Cette forme de zakat. Hein. Mais il y a d'autres formes de zakat aussi. L'autre forme de zakat, c'est la zakat que l'on sort à la fin du ramadan. Zakat al-fitr. Qui est au moment de la fête de rupture du jeûne, la fête de l'Aïd. On sort ce que l'on appelle la zakat et elle est fixée, je crois qu'en France, elle est fixée à 5 euros par personne. Et il y a évidemment la zakat qui est l'aumône qu'on peut donner aux pauvres à ce moment-là, à son gré et à sa convenance. Il y a donc trois niveaux. La zakat essentielle qui est la chour, le dixième. Mais là, je vous dis, c'est l'impôt. Deuxième, c'est la zakat al-fitr. Troisième, c'est la zakat sadaqa hein, que l'on peut donner. Et puis, cinquième pilier, le hajj. Le pèlerinage, mais là, il est spécifié à la manistata. C'est une obligation pour ceux qui le peuvent. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Alors qu'aujourd'hui, on voit des familles se saigner à mort pour aller 3, 4 fois, 5 fois à la Mecque. C'est pas la stricte conformité de la loi religieuse. La loi religieuse, c'est l'hajj ala man istata, ceux qui le peuvent. Donc, par conséquent, en plus, moi je me souviens, avant, on disait on va à la Mecque à la fin faire le hajj pour se laver les os, c'est-à-dire pour se laver un petit peu des péchés qu'on a pu faire. Donc, on attendait d'être avancé un petit peu en âge. Pour aller à la Mecque. Parce que quand on va à la Mecque, après, il ne faut plus faire de mauvaises actions. C'est fini. Et bien maintenant, on va à la Mecque à 19 ans, on va à la Mecque à 20 ans. C'est vraiment... plus rien. C'est le monde à l'envers. Quoi. Bref. Alors, dans la religion, à part ces cinq piliers, qui sont ce que l'on appelle les ibadat, c'est-à-dire les obligations. À côté des ibadat, il y a les adat, les traditions, que l'islam recommande de respecter. On s'arrête ? On va essayer de reprendre.
C'est comme ça. Dommage.
Alors, juste avant d'ouvrir les questions, je voudrais d'abord remercier la dame qui arrive là parce qu'elle m'a permis de rectifier une erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Najd en Arabie Saoudite. Comme lieu d'éclosion de l'islam, c'est pas le Najd, c'est le Hijaz, hein, qui est beaucoup plus centre et sud plutôt qu'on. Bien. Donc, cette rectification faite, je vais très rapidement passer sur. Bon, la mosquée, c'est le lieu religieux, mais. Il faut savoir que la mosquée s'appelle le masjid, mais s'appelle le jama, celui qui unit. Donc c'est le lieu de réunion de la communauté. Les prières peuvent se faire individuellement, sauf les prières surrogatoires, c'est-à-dire la prière, les prières d'après la prière de la nuit, la Isha. Et la prière du vendredi qui, elles, obligatoirement se font collectivement. Alors, deux mots rapidement sur le halal et le haram. Le halal, c'est pas ce qui est prescrit. Alors, il y a eu un glissement qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que le halal, c'est ce qui est prescrit. Non, le halal, c'est ce qui est licite, ce qui est autorisé, ce qui est permis. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Thierry, je crois, c'est-à-dire, ça se passe comme pour le bio. C'est-à-dire, il y a l'industrie et tout le système commercial qui s'en empare et qui finit par en faire un véritable objet de consommation et de commerce. Mais au départ, le halal, c'est ce qui est autorisé. Par exemple, pour la viande, il y a une forme d'abattage licite qui permet la consommation de la viande. Mais il n'y a pas de barbe halal. Il n'y a pas de tenue halal. Ça n'existe pas. Les interdits, vous avez les interdits alimentaires, hein, la bête non égorgée, le porc, les animaux domestiques. Vous avez l'interdiction, évidemment, de l'adultère, des jeux d'argent, de... que sais-je, moi encore, qu'est-ce qu'il y a, de l'apostasie, hein, pour ce qui est de la polygamie, le verset est très clair. Il dit, vous avez le droit de prendre une, deux, trois, quatre épouses, mais si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule. On oublie généralement cette partie du verset. Ouais. Alors, je vais aller très vite pour les concepts qu'on entend très souvent. Bien sûr, après, on pourra revenir, si vous le voulez, à travers les questions sur tout ce qui peut rester encore pas suffisamment clair. Alors, la différence entre islamique et islamiste. Généralement, la différence qui est faite, c'est qu'on entend par islamique ce qui est musulman. C'est-à-dire la culture islamique, c'est la culture musulmane. Hein. Mais on dit islamiste, toute idéologie ou système qui consiste à utiliser les principes de l'islam pour une organisation sociale ou politique. Ça ne veut pas dire forcément violent. Hein? Mais ça signifie tout simplement qu'à partir des valeurs et des normes religieuses islamiques, on pense à une organisation sociale et politique. Et là, ça devient islamiste. Par exemple, le dirigeant du parti islamiste tunisien, Ennahda, Rachid Ghannouchi, a déclaré il y a deux ou trois mois, l'islam politique, c'est fini. L'islam est une religion, la politique, c'est l'organisation de la vie en société. Donc, est-ce qu'on peut dire de lui que c'est un islamiste, une fois qu'il a déclaré ça? Ça peut poser problème en réalité, parce que il n'en reste pas moins que les normes de comportement, la morale qui est érigée sert aussi à organiser la vie sociale. Donc ça reste malgré tout quelque chose d'islamiste. Bon, c'est simplement pour que l'on fasse la différence entre islamique et islamiste. Alors, le soufisme, on entend souvent parler du soufisme. Ah, c'est quoi le soufisme? Le soufisme, c'est l'ésotérisme, c'est-à-dire ce qui correspondrait un petit peu à la vie monastique dans le christianisme. Hein? C'est cette espèce de pratique particulière de la religion qui n'est pas propre au sunnisme, qui existe aussi au chiisme, qui serait peut-être même plus proche du chiisme, d'ailleurs, parce qu'il y a une plus grande spiritualité. Mais les soufis, c'est des gens qui sont dans une voie. D'ailleurs, il y a plusieurs... Les confréries soufis, on les appelle les tariqas, c'est-à-dire les voies. Hein? La Rahmaniya, la Qadiriya, la Naqshbandiya, etc. Chaque maître soufi a sa voie. Hein? C'est la tariqa. C'est donc la voie vers le Seigneur. Et c'est des... En fait, le soufisme est une façon de vivre la religion qui est en même temps une façon de monastique, c'est-à-dire intérieure, mais en même temps dans l'esprit une ouverture extraordinaire. Je vous cite tout simplement ce quatrain très célèbre du grand maître Ibn Arabi, le poète et philosophe soufi d'Andalousie du 11e siècle, 11e, 12e, je ne me souviens plus très bien, qui disait « Mon cœur accepte toute forme possible. Mon cœur est ouvert à toute forme possible. Il est prairie pour les gazelles. Il est temple, cloche pour les prêtres. Il est temple pour les idoles. Il est Kaaba pour les pèlerins. Il est table de la Torah et il est feuille du Coran. Mon cœur est ouvert à la religion de l'amour. Là où le mènent ces caravanes, je déclare l'amour. L'amour est ma religion et ma foi. » C'est vraiment l'ouverture la plus totale, en même temps que c'est une intériorité, c'est une spiritualité extrêmement grande. Et un soufisme ne peut pas être politique. Hein, mais en même temps, le soufisme ne peut pas générer de grandes organisations sociales. C'est pour ça que les salafistes le condamnent. Alors, salafisme, c'est le grand, grand mot à la mode. Alors, la salafia, c'est un mot arabe qui veut dire l'imitation des anciens. Les salafs, c'est les anciens. C'est les anciens vertueux, évidemment. Hein. Et la salafia, c'est l'imitation, c'est suivre la voie des anciens. Et la salafia a existé depuis toujours. Elle a été remise à l'ordre du jour, et vous allez voir combien c'est paradoxal. Elle a été remise à l'ordre du jour, au goût du jour, à la fin du 19e siècle, par quelqu'un qui s'appelle Jamaluddin Afghani. Jamaluddin Afghani est l'un de ses épigones les plus connus, qui est Mohamed Abdou, l'Égyptien, ont pensé le retour à l'origine de l'islam pour réformer l'islam dans un sens de progrès. C'est-à-dire que la salafia, au départ, était progressiste. La preuve, c'est qu'un grand réformateur musulman en Algérie, Abdelhamid ibn Badis, c'était quelqu'un qui a milité pour la laïcité. Et vous allez me dire, c'est trop facile, parce qu'en Algérie, à l'époque, la loi de 1905 n'était pas appliquée. Elle était appliquée en France, mais elle n'était pas appliquée dans les colonies, parce que ce n'étaient pas des citoyens. La loi s'appliquait à tous les citoyens français. Les musulmans qui habitaient en Algérie n'étaient pas des citoyens, c'était des sujets. Donc la loi de 1905 ne s'appliquait pas. Abdelhamid ibn Badis revendiquait l'application de la séparation entre l'Église et l'État. Mais plus que ça, Abdelhamid ibn Badis a encouragé et a été d'accord et a exprimé un très grand accord avec les processus menés par Mustafa Kemal en Turquie. Il a été pour la traduction du Coran en turc. Donc les salafistes originels, Afghani, Abdou, Ben Badis, etc., étaient des gens qui étaient salafistes dans un sens de progrès. C'est avec un penseur égyptien qui s'appelle Rachid Rida que le glissement va se faire, qui va ensuite donner naissance à Hassan al-Banna, les frères musulmans, Sayyid Qutb, etc. Et aujourd'hui, à ce que l'on appelle le salafisme aujourd'hui, qui est maintenant contre les frères musulmans. Enfin, c'est toute l'histoire des mouvements politiques islamistes que l'on peut reprendre, mais il faudrait le temps de rentrer dans les détails. Le salafisme aujourd'hui, ça veut toujours dire le retour aux pieux ancêtres, aux vertueux ancêtres. Et par vertueux ancêtres, on entend surtout les quatre califes, qu'on appelle les califes bien guidés. Khulafa Rashidun, hein, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et la ritualisation de l'islam et la déspiritualisation de l'islam fait qu'aujourd'hui, le retour aux pieux ancêtres, ça consiste à mettre une gandoura ou à porter la barbe au lieu de rechercher véritablement ce qui a fait la spiritualité de cette période, c'est-à-dire l'ouverture, etc. Et dans le salafisme aujourd'hui, vous avez aussi un éventail. Vous avez le salafisme piétiste, qui est un salafisme de prosélytisme, mais pas violent, qui consiste simplement à prêcher le bien. Le prêche du bien et l'interdiction du mal. Hein. Et vous avez le salafisme djihadiste qui, lui, considère que le devoir d'un musulman, c'est de partir en guerre violente contre toutes les formes d'incroyance. Alors, djihadiste, un mot pour finir et puis je vous laisse la parole. Djihadiste, le djihad, jahada, c'est la racine arabe qui veut dire en même temps combat et en même temps effort. Et quand on dit combat, c'est pas le combat au sens littéral d'aujourd'hui. Ça peut être aussi le combat contre ses propres passions. Alors le mot djihad est utilisé dans le Coran, il y a plusieurs occurrences. Il y a des occurrences dans lesquelles il est utilisé au sens de jihad fi sabilillah, c'est-à-dire dans la voie de Dieu. Et à ce moment-là, souvent aussi, jihad au sens armé. Quand on utilise par exemple l'équivalent de jihad ribat. Préparez-vous à leur asséner ce que vous avez comme force et comme combat à cheval, etc. Donc, il est utilisé, le mot jihad est utilisé comme au sens de combat et combat guerre violente, mais il est utilisé aussi très souvent comme vertu morale, c'est-à-dire au sens de combat contre ses passions, combat contre le mal, effort contre soi-même, etc. Dernier mot, alors juste ce que l'on entend aussi parler de la taqiyya. La taqiyya, c'est un terme qui... on l'utilise aujourd'hui pour dire de ces islamistes terroristes qui ne respectent pas les principes de l'islam pour mieux ne pas se faire voir, pour tromper l'ennemi en quelque sorte. Ces djihadistes qui n'ont pas la barbe, qui sont en djinn, qui écoutent du rap, etc., pour mieux tromper l'ennemi. C'est une ruse de guerre qui est utilisée surtout dans le chiisme, mais qui n'est, à mon sens, qui n'est pas codifiée, ou alors véritablement pour les plus grands spécialistes. Voilà, je m'arrête là parce qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps à la discussion. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.